La parole du jour avec Didier Gougis, diacre.
Bonjour. Tout au long de cette semaine, je vous propose de me suivre dans l'évocation du pèlerinage diocésain en Castille sur les pas de sainte Thérèse d'Avila et de saint Jean de la Croix qui s'est déroulé en avril dernier. Nous y étions accompagnés par le père Yannick Coat et madame Jeanne-Marie Petite, deux fins connaisseurs de la spiritualité carmélitaine. Le troisième jour de notre pèlerinage, nous avons visité le couvent de l'Incarnation sous les remparts d'Avila, où Thérèse entra comme religieuse à l'âge de 20 ans. Pourtant, la vocation religieuse était loin d'être une évidence pour cette jeune femme tiraillée entre l'attrait de la vie mondaine et l'appel de son Seigneur. « Je n'avais pas encore d'attrait pour la vie religieuse, écrira-t-elle. Cependant, je voyais que c'était l'état le plus excellent et le plus sûr, et peu à peu, je me décidais à me faire violence pour l'embrasser. » Usant de son légendaire pouvoir de persuasion, elle décide son frère Antonio d'embrasser comme elle la vie religieuse, et ils partirent de bon matin, à l'insu de leur père, d'abord vers le couvent de l'Incarnation. Ce départ ne fut pourtant pas euphorique pour Thérèse, ainsi qu'elle le raconte dans le livre de la vie. « Quand je quittais la maison de mon père, j'éprouvais une douleur si excessive que l'heure de ma mort ne peut, je pense, m'en réserver de plus cruelle. Il me semblait sentir que mes os se détachaient les uns des autres. En cet instant, Dieu me donna le courage de me vaincre et je vins à bout de mon entreprise. » C'est pourtant dans ce couvent que Thérèse vécut 27 ans, qu'elle découvrit peu à peu sa vocation, qu'elle mûrit son projet de réforme du Carmel, qu'elle élabora l'essentiel de sa spiritualité fondée sur l'oraison et la conversation avec son Seigneur. Lorsque l'on entre dans la cour du couvent, ce qui frappe d'emblée, c'est la disposition du dallage, constitué de 7 cercles concentriques autour d'une croix de pierre posée sur un large piédestal. Ceci est une traduction architecturale de ce que Thérèse appelle « les 7 demeures » dans son ouvrage essentiel « Le château intérieur » qu'elle écrira en 1577, bien longtemps après son entrée au couvent de l'Incarnation, 5 ans seulement avant de mourir. Thérèse propose de considérer notre âme comme un château, fait d'un seul diamant ou d'un cristal parfaitement limpide et dans lequel il y a beaucoup d'appartements, comme dans le ciel il y a bien des demeures. Certaines de ces demeures sont en haut, les autres en bas, d'autres sur les côtés. Enfin, au centre, au milieu de toutes les autres, se trouve la principale, où se passent entre Dieu et l'âme les choses les plus secrètes. Depuis l'enfance, l'imaginaire de Thérèse d'Avila est imprégné de chevalerie. Sa ville natale est entourée de murailles. L'image du château lui permet de parler de la construction de son être spirituel, ce que saint Paul appelle l'homme intérieur. Cette image repose sur les paroles de Jésus rapportées par l'évangéliste Jean. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Et si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Pour Thérèse, le but de la vie spirituelle est cette union intime avec Dieu. Pour l'expérimenter, Thérèse propose un itinéraire dont les portes d'entrée sont la prière d'oraison et la connaissance de soi. Au XVIe siècle, il est habituel de parler de la vie spirituelle comme d'une ascension avec des étapes successives. Mais il ne faut pas rester prisonnier de cette image. Thérèse elle-même reconnaît que l'âme peut circuler librement dans le château, passer d'une demeure à l'autre. Dans chacune, elle va expérimenter un aspect de la vie spirituelle. Ainsi, dans les premières demeures, la personne découvre qui elle est et qui est Dieu. Elle reconnaît son éloignement de lui. Dans les deuxièmes demeures, elle entend l'appel à suivre le Christ. mais c'est aussi une étape de lutte pour ne pas retourner en arrière. La personne a décidé de prier, mais elle doit persévérer pour être fidèle à cette décision. Les troisièmes demeures sont celles de la vie vertueuse. La personne a mis de l'ordre dans sa vie. Elle prie régulièrement. Mais le piège serait qu'elle se croit arrivée. C'est pourquoi elle expérimente des moments d'aridité et des distractions dans la prière. Celles-ci sont l'occasion de se reconnaître humble devant Dieu. Les quatrièmes demeures marquent une étape importante. La personne goûte une forme de paix intérieure. Pour la première fois, elle expérimente la vie de Dieu en elle de manière prégnante. Cela la met dans un silence intérieur. Dans les cinquièmes demeures, elle reçoit une grâce d'union à Dieu. Celle-ci lui tombe dessus et transforme sa vie. C'est pourquoi Thérèse utilise le symbole d'un ver à soie qui devient un papillon blanc. Jusque-là, la personne faisait effort pour aller vers Dieu. Maintenant, elle est portée par la grâce. C'est l'envol. La personne a un brûlant désir d'être utile aux autres. Mais cette porte qui s'ouvre sur une vie nouvelle n'est qu'une grâce ponctuelle. Reste à apprendre à aimer Dieu et son prochain. Pour l'exprimer, Thérèse introduit une nouvelle image, celle du mariage spirituel. Non parce qu'elle aime ce symbole, mais parce qu'elle n'a pas trouvé mieux. Ainsi, après la rencontre de l'époux dans les cinquièmes demeures, commence le temps des fiançailles dans les sixièmes demeures. Elle aboutit dans les septièmes demeures à la pleine communion avec Dieu, symbolisée par le mariage spirituel. La personne expérimente la présence continuelle de Dieu en elle. Le papillon meurt, c'est la mort de l'ego. L'âme appartient au Christ pour être disponible à son œuvre et à sa mission. La finalité de cet itinéraire est d'agir en articulant contemplation et action, comme le rappellent les figures bibliques de Marie et de Marthe. Il ne faut pas imaginer de grandes actions. Si Thérèse a connu des phénomènes extraordinaires comme l'extase, le château intérieur n'est pas réservé aux mystiques, mais accessible à tout chrétien. C'est l'ordinaire de la vie qui est transformé à partir d'une source intérieure. La source toujours. Nous nous quittons en écoutant le chant de la communauté de Thésée « Nada te turbe », que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, qui à Dieu ne manque de rien, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, Dieu seul suffit. Merci à Christophe qui a assuré la technique et à bientôt sur Radio Grand Ciel.